Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, ça va bien tout le monde? On est content, c'est 70 ans d'Edith. Ah non. Seulement 40 ans et quelques années de plus, une dizaine. Voilà. magnifique, Dieu te bénisse, c'est bien. Et on salue Jean qui doit certainement nous écouter sur Internet, Dieu te bénisse, amen.
Amen.
Voilà. Et puis. Mark Ingold, et puis Sandrine Jacques, et puis qui encore, Christian Robin, et puis qui encore, toute l'Afrique. je suis un petit peu à côté de mes pompes aujourd'hui parce que je suis tellement content que pas qu'on fête l'anniversaire d'Edith, ça c'est déjà super, mais alors là, la perle, c'est le baptême de Julie, gloire à Dieu, c'est magnifique, n'est-ce pas? On est content quand on voit une adolescente qui dit moi. Je veux marcher avec Dieu fidèlement. Que Dieu te bénisse, Julie, pour ça. C'est la joie de tes parents et toute la famille chrétienne ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Romains 8, chapitre 8, verset 22-25. Avec moi, s'il vous plaît. C'est Paul qui dit, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, pas seulement la nature, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps, le rachat de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce texte, la lettre aux Romains, c'est magnifique. C'est ma lettre préférée. Elle est magnifique. Je vous parle depuis longtemps de ces deux natures, de l'âme et de l'esprit. Vous vous rappelez, pour ceux qui prennent Internet pour la première fois, je vous rappelle que l'âme, c'est le résultat de la fusion entre le corps et l'esprit. Quand Dieu a soufflé un esprit dans un corps, ça a fait une âme. Le mot âme signifie être vivant. Donc, ce que vous êtes, là, la personne vivante que vous êtes, votre personnalité, votre moi, cet être-là, c'est une création. Mais votre esprit n'est pas une création. Votre corps est une création aussi. Mais votre esprit n'est pas. C'est quelque chose d'éternel. Ça vient de beaucoup plus loin, beaucoup plus avant votre apparition sur la terre. Donc, nous avons ces deux choses, notre être vivant, notre âme, ce truc créé là. Et puis, je dis truc parce que, bon, l'âme, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Et puis, l'esprit, qui est magnifique, cette parcelle de Dieu en nous. À cause du péché, la Bible nous dit que notre âme, elle est perdue. Alors, des gens savent pas ce que ça veut dire, être perdu. L'âme est perdue. Ça signifie qu'elle est devenue animale. Ça veut dire qu'elle est inférieure à ce qu'elle devrait être. Elle est inférieure à ce qu'elle devrait être. Alors, à qui vous identifiez-vous? À votre âme ou à votre esprit? Hein, si vous identifiez à votre âme, vous êtes désespéré. Bon, vous avez une espérance, c'est que votre âme est sauvée, mais en réalité, là, maintenant, on ne voit pas qu'elle est sauvée. Vous êtes d'accord? Quelle est la preuve qu'elle est sauvée? On a la foi que Jésus a tout fait pour qu'elle soit sauvée, mais c'est en espérance qu'on est sauvé, parce qu'en réalité, on est encore des êtres humains avec plein de problèmes, de machins, de tares, de trucs. Il ne faut pas se cacher la vérité. C'est vrai. Une personne qui s'identifie à son âme, elle se rapproche de l'enfer, c'est-à-dire qu'elle vit les prémices de l'enfer déjà ici-bas sur terre. Beaucoup de gens disent ça, hein? Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça. Ils disent, mais l'enfer, ça n'existe pas, c'est la terre l'enfer, ils disent. C'est pas que l'enfer n'existe pas, mais ils ont conscience que c'est déjà ici l'enfer. Et je vous assure, ici dans nos pays, voilà, tout est beau, tout est merveilleux, c'est magnifique, mais hein, comme on discutait hier avec le cousin de Michou qui est parmi nous, eh bien Patrick, on disait, qu'est-ce qu'on disait? Je ne me rappelle plus, voilà, j'oublie maintenant ce qu'on disait. On disait des choses vraies, c'était tout à fait vrai, voilà. Oui, voilà, par exemple, le travail, on parlait du travail. Les gens qui cherchent, qui vont, pour le guano, vous savez, ils risquent leur vie, c'est terrible, pour 3 francs 6 sous. Et ici, nous, alors on revendique hein, les droits de l'homme, gna 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 gna. C'est vrai qu'ici, on pourrait penser que c'est un peu le paradis. C'est tout petit. Ici, c'est formidable ce qu'on vit par rapport à l'immensité de la planète où c'est l'horreur, mais vraiment l'horreur. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup, beaucoup de souffrance. Ici, on souffre, c'est vrai, mais c'est rien à côté de ce qu'ils vivent ailleurs. C'est épouvantable. Je ne dis pas qu'ici, c'est parfait. Mais à comparer avec ce qu'ils vivent eux là-bas, oui. Donc l'enfer, on l'a créé ici-bas sur terre. Une personne, par contre, qui s'identifie à son esprit, ben, elle se rapproche du paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son âme, elle est sauvée. Sauvée de quoi? Ben, sauvée de ce labyrinthe dans lequel la majorité des gens marchent en tâtonnant. Voilà, ils se font rouler, ils se font avoir, puis après ils recommencent, parce qu'on ne peut quand même pas se laisser tomber comme ça, et puis c'est une lutte, c'est un combat, c'est terrible, et puis elle dit pourquoi, mais pourquoi, 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 les enfants meurent, pourquoi, tant de souffrance, pourquoi, tant d'injustice, pourquoi les guerres, pourquoi. Enfin, ils ont une consolation, ils se disent après la mort, il n'y a plus rien. C'est formidable, si c'était vrai ça, c'est génial. Si après la mort, il n'y a plus rien, donc allons-y, on s'en fout, hein. Mais si c'est vrai, s'ils ont raison, alors quel intérêt d'exister comme ça? Quel intérêt de continuer à vivre cette vie? Bon, il y a des joies, c'est vrai. Alors c'est beaucoup l'instinct de survie, n'est-ce pas? L'instinct de survie. Mais Jésus nous enseigne, au contraire, qu'il y a une suite à l'aventure terrestre. Il y a une suite, une continuité qui donne, elle, un sens à notre vie d'ici-bas. Et c'est pour ça que nous vivons dans cette espérance qui nous fait toujours marcher plus loin, quoi qu'il arrive. On n'est pas obligé de s'étourdir dans toutes sortes de choses factices pour pouvoir avoir un peu de joie dans notre vie. Bien sûr que les choses factices, on ne passe pas à côté. On aime bien aussi se réjouir avec des choses toutes simples de la vie. Mais c'est pas notre but, c'est pas de rechercher ces choses. Nous avons un autre but, c'est l'éternité avec notre Dieu. Alors l'apparente injustice de notre passage sur Terre, à ce moment-là, peut céder la place à une sagesse, une connaissance qui nous donne la sagesse, qui donne à notre vie, à nos luttes personnelles, à notre travail, à nos peines, à nos joies, un sens. Un sens. On comprend le pourquoi, cette fameuse question, pourquoi. Et par Jésus-Christ, par la Bible, on apprend que nos objectifs, c'est d'apprendre, d'expérimenter et de se développer. Se développer. Se développer avant la suite. Avant la poursuite de notre voyage. Parce que là, c'est juste le début. Alors, notre âme, elle est sauvée. Elle est sauvée par la foi. C'est-à-dire, on croit. La foi, c'est une croyance absolue. On est absolument certain. Notre âme, elle est sauvée. On en est certain parce que Jésus a payé le prix sur la croix. Il a donné sa vie à notre place. Il est notre sauveur. On est sauvé. Ça, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est par la foi. C'est-à-dire, nous croyons que vraiment Jésus a payé le prix par son sang divin. On est sauvé. Voilà. Mais nous croyons ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Mais nous croyons qu'il est le sauveur de notre âme. C'est vrai. Oui. Mais cependant, comme dit Paul, ce n'est qu'en espérance que nous sommes sauvés parce que nous ne voyons pas encore notre salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Nous ne voyons pas encore notre salut et nous l'attendons avec persévérance. Et en attendant notre salut, eh bien, nous ne sommes pas exempts des souffrances comme toute la nature entière. La nature entière attend, souffre. Hein? Et nous aussi, nous souffrons comme elle les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire quoi les douleurs de l'enfantement? Vous avez vu les douleurs de l'enfantement, hein, les sœurs qui ont accouché? Hein, c'est des douleurs, c'est terrible. Et c'est de cela dont nous avons conscience. Quand nous souffrons, nous savons que nous sommes en train de mettre quelque chose. Quelque chose va sortir, quelque chose va naître de nous, quelque chose va arriver qui est en nous, qui va se manifester. Alors c'est des douleurs que nous connaissons, les douleurs de l'enfantement. Elles viennent par cycles et elles sont de plus en plus rapprochées et elles sont de plus en plus fortes. C'est comme ça. Mais nous, on est conscient du pourquoi des souffrances. Alors que le monde ne sait pas et le monde a peur. Notre âme a été rachetée à la croix, c'est un fait, mais elle demeure aujourd'hui encore pour nous autres chrétiens une porte ouverte entre nous et l'enfer. C'est à travers notre âme, à travers notre être vivant que nous sommes, à travers notre moi, à travers notre personnalité vivante, que l'enfer peut nous atteindre. La Bible dit de nous, c'est pas très brillant hein, le tableau que la Bible fait de notre âme. Elle est tout ce que je vais vous dire, mais de temps en temps plus ceci que cela, mais en réalité, si on regarde bien, on a tous ces possibilités. Notre âme est susceptible, vous n'êtes pas susceptible, on est tous, plus ou moins, ça dépend des jours aussi, hein, mais on est tous, notre âme est susceptible, elle est irritable, elle soupçonne le mal, elle n'est pas serviable, enfin il y en a qui sont plus serviables que d'autres, mais pff, alors voilà, donc elle n'est pas bonne, on ne peut pas dire que l'âme est bonne. Moi j'ai rencontré un jour une espèce d'illuminé dans une réunion, il me disait, oh l'homme n'est bon, ah, Oui, après, c'est la société qui fait que. Ah, mais comment alors c'était où le début du mal alors, puisque tout le monde naît bon, alors l'influence elle vient d'où? Je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas. L'âme n'est pas bienveillante au départ. Elle est destructrice, elle est possessive, elle accapare, elle est pleine d'envie, elle est jalouse, elle aime se faire valoir, elle est présomptueuse, elle est arrogante, elle se rengorge, elle s'étale, elle s'en fout d'orgueil, elle n'est pas vraiment droite, elle manque de tact. Ça, c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi, hein? Mais quel tableau! Hein? Elle ne prend pas des égards, elle est blessante, elle scandalise, elle est dédaigneuse, elle agit à la légère, hein? Elle est malhonnête, très souvent, hein? Elle ne pense qu'à elle-même, elle cherche son propre intérêt, elle insiste sur ses droits. Elle est irritable, elle s'aigrit contre les autres, elle médite le mal, elle soupçonne le mal chez les autres, elle est rancunière. C'est pas vrai, on n'est pas tous un peu, hein? Oui, mais il ne faut pas se voiler la face. Elle n'aime pas souffrir, hein? Elle n'aime pas endurer, elle n'excuse pas les autres, elle n'aime pas passer par-dessus les fautes des autres. Elle aime bien... Et puis raconter encore. Elle a de la difficulté à faire confiance. Elle a de la difficulté à attendre le meilleur. Elle est terrible. Elle n'arrive pas à espérer sans faiblir. Il faut toujours la regonfler. Bref, on a tout ça en nous, n'est-ce pas? On a tout ça en nous. Eh bien, cela, c'est ça la porte ouverte à l'enfer. C'est-à-dire au malheur. Au nôtre. À celui qu'on fait aux autres, c'est la porte ouverte au malheur qu'on fait aux autres. L'homme et la femme ont créé l'enfer sur la terre, et la plupart des gens sont branchés vers le bas. Vers le bas. Le courant souterrain. Quand on se promène, hein, moi je vois, on va en Suisse, c'est magnifique. On fait des grandes virées aux États-Unis, c'est beau, il y a des paysages extraordinaires. En Auvergne, c'est superbe, partout, c'est beau. Je dis, mais est-ce que les gens sont bêtes? Est-ce qu'on est bêtes d'être méchants comme ça? Est-ce qu'on pourrait vivre le paradis? C'est tellement beau, la terre. La nature est tellement belle, c'est tellement beau. Mais on est tous, la plupart des gens sont branchés vers le courant souterrain qui les aspire comme une ventouse et puis ils deviennent des démons. Vous voyez les petites grand-mères? Oh, leur confiserie, le bon Dieu sans confession, les voyez aller à l'église comme ça. C'est des vieilles charognes, méchantes, mauvaises comme des. Mais c'est souvent, non? C'est terrible. Après, ils disent, ah, c'est merveilleux. Ben non, c'est pas merveilleux du tout, c'est ça. Bon, c'est horrible. Peu d'humains s'élèvent vraiment. Peu d'humains. Et ceux qui s'élèvent sont ceux qui aiment les choses de l'esprit, parce pour les farfelus. Ils ont en eux le souvenir confus, c'est vrai, de leur passé éternel avec Dieu, de cette magnificence, cette beauté, cette unité, cet amour, tout ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissances qui circulent sur cette terre, mais il y en a deux, pour résumer, on va dire qu'il y a deux courants à distinguer. Le courant de la lumière et le courant des ténèbres. Le monde est écartelé toujours entre ces deux forces, entre ces deux puissances principales. Alors, il y a deux pôles, et on les représente avec des mots, le bien et le mal. Et puis, il y a deux entités principales, il y a Dieu et le diable. Bon, voilà. Mais ça, c'est juste pour expliquer. C'est juste pour expliquer le choix que nous semblons faire librement. Parce qu'à la vérité, il n'y a qu'une entité, c'est Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et s'il est tout puissant, il n'y a pas de place pour une autre puissance que lui. Alors écoutez bien, Dieu est un. Mais dans sa manifestation, c'est-à-dire dans ce qu'il a créé, il est deux. Moi, j'ose dire ça. Il faut dire ça, sinon c'est désespérant. Ça laisse dans un flou artistique cauchemardesque. Dieu a son côté masculin et son côté féminin. Dieu a son côté positif et son côté négatif. Son côté lumineux et son côté ténébreux. Et les ténèbres ne sont pas forcément mal. Paul nous dit de regarder la nature, de prendre des leçons dans la nature. La nuit, c'est mal la nuit? Non, c'est tout à fait nécessaire. Alors, c'est des mots, des symboles, comme la droite et la gauche. Pour moi, là, c'est droite. Pour vous, c'est quoi? Ben, vous voyez? Pour moi, cette paroi-là, c'est la droite. Et pour vous, c'est la gauche. Tout dépend d'où vous êtes. Tout dépend de votre position sur un moment donné. Votre droite, c'est ma gauche quand je suis en face de vous. Vous voyez? On associe, par exemple, souvent la droite, pas en politique, je ne parle pas de politique, hein, mais on associe souvent la droite au bien, puis la gauche au mal, à la maladresse. C'est une façon de parler pour comprendre les choses. C'est des mots. Il faut aller plus loin que les mots. Il faut d'abord comprendre ce que les mots disent, puis ensuite aller plus loin, lire entre les lignes. La droite et la gauche, ça forme mon être tout entier. Si vous me coupez en deux pour mettre la gauche à gauche et la droite à droite, ben même le morceau qui sera à droite, il aura un côté droite et un côté gauche. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas séparer ça, ce n'est pas possible. Et si je divise droite et gauche dans ma compréhension, c'est pour avoir plus de facilité pour comprendre les choses et pour pouvoir m'exprimer sur cette terre, dans ce système créé où il y a la dualité. Alors il faut admettre et il faut comprendre que tout est bon dans ce que Dieu a créé, même les démons. Ah, les démons sont bons, non, je n'ai pas dit ça. Je dis que c'était bon parce qu'ils ont leur utilité. Ils ont leur utilité une fois grillés, mais on passera à autre chose, à justement une nouvelle création sans dualité. Il faut que le mauvais côté de la dualité soit exterminé. Ils sont utiles dans ce système. Ils ont été créés, la Bible nous dit, pour le jour de la destruction. Voilà pourquoi ils ont été créés. Alors, c'est un sale moment à passer, ce temps qu'on passe sur la terre. Mais il y a un but, c'est la destruction de ce qui est mauvais, de ce qui peut faire du mal. Et ces démons sont des aimants qui attirent ce qu'ils doivent attirer. Et ce qu'ils attirent, c'est ce dont Dieu veut se débarrasser. Pour le reste de l'éternité, il y a des choses dont il veut se débarrasser. Parfait! Maintenant, dans quel courant êtes-vous? Quelle force d'attraction vous inspire? Peut-être vous n'y réfléchissez pas, c'est peut-être pour ça que vous laissez de temps en temps tirer d'un côté et puis de temps en temps tirer de l'autre. Il faut choisir. La personnalité, l'âme, sa principale tendance, c'est de prendre. Même au détriment des autres, c'est de prendre. Elle n'a pas de moralité. Elle n'a aucune pitié. Ne venez pas me dire que l'âme a de la pitié. C'est pas vrai. Regardez les horreurs. Là, ce matin, juste avant de venir, je feuilletais encore le journal La Montagne. Mais c'est l'horreur, je veux dire. C'est l'horreur. C'est affreux ce qui se passe. De quoi l'homme est capable? C'est affreux. Aucune pitié. Rien. La Bible dit que sans Dieu, l'homme est capable de rien. De rien de bon, de rien de durable, de louable, d'honorable, de vraiment bon. Toujours quelque chose derrière qui fait que. Elle est née dans le péché. Et non seulement elle est ingrate, mais en plus elle se vexe si on ne lui donne pas plus. Alors c'est de là qu'ils viennent les révoltes, les jalousies, la cruauté, les vengeances et tout ça. C'est comme ça que ça vient. C'est à cause de ça, c'est cette nature-là. Alors l'esprit, notre esprit, lui, vos esprits à vous, ils font que de donner. Donner, donner, donner. La position du chrétien, elle se trouve justement entre les deux, justement déchirée entre les deux. Et par l'enseignement et par l'exemple de Jésus-Christ, le chrétien, il décide de refuser les désirs de son âme, de sa personnalité. C'est ce que Julie va faire tout à l'heure quand elle va rentrer dans les eaux du baptême. Elle dit maintenant, point final, je déclare que je refuse de faire le mal. C'est une décision publique devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, devant les démons. Mais on est sollicité par les deux toute notre vie. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de dire non qu'on n'est pas sollicité. On est tenté. Jésus lui-même était tenté de pécher. Mais est-ce qu'il a péché? Non. Et nous, c'est là où on en est. On a refusé de pécher, mais on est tenté et il faut s'efforcer. C'est pour ça qu'il dit, notre espérance nous pousse à persévérer dans le bien, dans notre salut. Paul, il nous dit d'observer la création, dans Romains. Et observer la création, alors, on va observer trois choses dans la création. Trois choses très importantes. Le soleil, la lune et la terre. Le soleil, il donne, il est inépuisable, il donne, il donne, il donne. La terre, elle prend l'énergie du soleil pour elle-même. Elle produit pour elle-même, elle donne, elle se prend pour elle-même. Maintenant, la lune, elle prend pour réfléchir, prend du soleil pour donner. Donc, prendre, ce n'est pas forcément mauvais. Regardez comment fait la lune, elle prend pour renvoyer. Le soleil, c'est le symbole de l'esprit. Il faut jouer le jeu. Le soleil, c'est le symbole de l'esprit. Jésus dit de lui-même qu'il est le soleil de justice. Alors, j'ose dire que notre esprit, il est aussi le symbole de l'esprit, c'est le soleil. Donc, le soleil, il donne, notre esprit, il donne. L'âme, c'est le symbole de l'âme, c'est la lune. La lune, elle prend, mais elle réfléchit, elle donne. Le corps, lui aussi, il prend. C'est la terre. Maintenant, regardons ce qui domine en nous personnellement. Il y a, parmi les humains, ceux qui sont plus sous l'influence de la terre, c'est-à-dire du symbole, c'est-à-dire de leur corps. Ils prennent de façon égoïste, ils sans amour, sans pitié, la terre prend pour elle, et puis pour ce qui la concerne, mais c'est tout, elle s'en fout du reste. Hein, voilà, c'est comme ça. Et puis, il y a ceux qui sont comme la lune, leur symbole, c'est-à-dire les poètes, les visionnaires, les compositeurs, les artistes, les inventeurs. Eux, ils captent des choses. Et puis, dans d'autres sphères, là où le corps ne va pas, c'est une subtilité, n'est-ce pas? Et puis ensuite, ils reflètent ça. Alors, ils vous donnent des poèmes extraordinaires, des musiques fantastiques, des inventions fantastiques. Voilà, c'est comme la lune. Hein, ils reflètent. Et refléter, c'est déjà donner. Mais ils ne donnent pas d'eux-mêmes. C'est comme le miroir. Si vous voulez, le miroir, il ne donne rien de lui-même. Mais au moins, il renvoie quelque chose. Au moins, il renvoie quelque chose. Il reflète. Ça, c'est la lune. Elle reflète. Ça, c'est l'âme. Et comme elle se trouve, la lune, entre le soleil et la terre, la partie qui est tournée vers la terre reflète ce qui est infernal, et puis la partie qui est tournée vers le soleil reflète ce qui est supérieur. Par moment, la lune, elle est croissante, par moment, elle est décroissante. Qu'est-ce que ça signifie? Puisque Paul nous dit d'observer la nature, ça veut dire quoi? Eh bien, il y a des personnes comme la lune, ont pour rôle de refléter tout ce qui est mauvais et infernal et, pendant d'autres périodes, tout ce qui est bon et céleste. L'âme est liée à la lune, c'est le symbole de l'âme, c'est la lune. Le corps physique, c'est la terre, et notre esprit, c'est le soleil. Comme le soleil, notre esprit, notre part de divin, il donne, il est généreux, il donne, il est inépuisable. La terre, elle ne peut pas donner. Elle prend pour elle-même, pour son utilité à elle, pour elle-même. C'est sa nature, ça c'est votre corps, pour lui-même, pour ses passions, pour ses désirs, pour ses besoins, pour ses machins, pour ses trucs. Votre corps n'a rien à donner à Dieu. Tout ce que notre corps fournit, c'est ce que la Bible dit, c'est charnel, ça vaut pas, devant l'esprit, ça disparaîtra, ça vaut rien, c'est rien. Il n'a pas encore été racheté le corps. Il le sera, Romains 8, 23, mais pour le moment, il ne donne rien de valable. La lune, votre âme, elle est parfois sous l'influence du soleil, de l'esprit, de votre esprit, et parfois sous l'influence de la terre, c'est-à-dire de votre corps, la lune, entre les deux. Je vous explique ces choses pour que vous sachiez que vous êtes ces trois choses. Vous n'êtes pas que le soleil, vous n'êtes pas que la lune, vous n'êtes pas que la terre. Vous n'êtes pas que votre corps, vous n'êtes pas que votre âme et vous n'êtes pas que votre esprit. Ce que vous devez composer avec les trois. Alors certains sont plus terre que lune. C'est plus leur âme qui prend le dessus que leur corps. D'autres, ils sont plus lune que soleil. C'est-à-dire, ils sont ils captent des choses et puis ils renvoient des choses, mais ils ne sont pas le soleil, ils sont de temps en temps à renvoyer des bonnes choses et de temps en temps à renvoyer des mauvaises choses. Vous voyez? Et puis d'autres sont plus soleil que lune, mais personne n'est vraiment soleil à part Dieu. Tout dépend de votre marche, tout dépend de vos progrès, tout dépend de vos expériences et de votre façon de comprendre ce qui vous arrive, de ce que vous voulez bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent rien comprendre. M'arrive ça, oui, ben voilà, c'est la fatalité, poil au nez. Puis ça s'arrête là, puis ils sont contents presque, hein. En tout cas c'est ce qu'ils montrent, mais est-ce que c'est vraiment la réalité dans leur souffrance intérieure? Mais vous n'êtes pas que la terre, c'est-à-dire que égoïste, vous n'êtes pas que la lune, sans rien donner, sinon ce que vous captez, et puis que vous réfléchissez, vous n'êtes pas que le soleil qui donne sans jamais s'épuiser, hein, qui c'est qui peut donner sans jamais s'épuiser? Vous êtes les trois, nous sommes les trois. Ce matin, le but de mon message, c'est d'éveiller votre désir de vous élever, de ne pas vous décourager si vous vous sentez mal, si votre corps souffre, c'est-à-dire la terre, parce que il est usé, parce qu'il est fatigué, parce qu'il est malade, parce qu'il est à cause des abus, à cause de je ne sais quoi. Vous n'êtes pas que la lune, une âme triste de temps en temps, puis toute guette, un peu fofolle, hein, il y a la lune. Il y a possibilité de vous élever. Il y a possibilité de devenir comme le Maître. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme le Maître, c'est-à-dire sera comme moi. Et pour y arriver, il ne suffit pas de demander à Dieu. Il y a des gens qui disent, Seigneur, élève-moi, que mon esprit prenne le dessus, que ce ne soit pas mon corps qui me dirige, que ce ne soit pas seulement mon âme, cette espèce de folle dingue qui me dirige, mais que ce soit mon esprit par ton esprit, ô Dieu, élève-moi. En fait, quand vous demandez ça, attention, vous êtes en train de dire à Dieu, je te donne l'autorisation de me conduire dans les hauteurs. Alors là, souvenez-vous que la terre et la lune, c'est-à-dire votre corps et votre âme, ne sera pas toujours à la fête si vous donnez à Dieu la possibilité de vous élever. Vous comprenez ? Je me rappelle, ma mère, toute jeune convertie, va avoir une semaine ou deux de conversion, elle était toujours en dispute avec sa mère. Rose, elle s'appelait, un nom de fleur. Elle avait l'air si gentille. C'était une teigne. Elle aimait qu'une personne, moi. Moi, Michel Jordan, elle m'adorait, j'étais son chouchou. À moi, elle était avec moi, elle était adorable. Mais avec ma mère, elle était teigneuse, c'était une horreur. Et un jour, ma mère dit, bon, la grand-maman, elle vient cet après-midi, mon Dieu, toi qui es tout puissant, donne-moi de la patience avec ma mère, Seigneur, donne-moi de la patience. Alors, la grand-mère Rose est venue, elle était plus abominable que jamais. Mais alors, une horreur. Et ma mère, après, elle a dit, ben, Seigneur, je ne te demanderai plus jamais la patience, parce que alors, tu m'as donné une occasion de vraiment l'exercer, mais j'aime pas ça, dis donc. Vous voyez, quand vous demandez à Dieu, Seigneur, permets que mon esprit s'élève, que ce soit mon esprit qui commande, qui dirige toute chose, oui, il va vous donner les occasions de maîtriser votre corps et de maîtriser votre âme pour qu'ils se mettent à leur place, c'est-à-dire en dessous, et que ce soit l'esprit. Mais ça vient par les expériences de la vie. Voilà pourquoi il est écrit que les biens et les maux viennent de l'Éternel. Lamentation de Jérémie, comme je vous ai dit vendredi. Les maux et les biens viennent de l'Éternel. Qui dira que ça ne vient pas de Dieu? C'est Jérémie qui dit ça. Hein? Les biens et les maux sont utiles à notre croissance. N'évitez pas les maux. Je ne parle pas de la sur le mot. Hein? N'évitez pas les maux. Comprenez leur signification. Comprenez ce qui vous arrive. Hier, le papa d'Éric, Roland, il disait que quand son fils était petit, Richie, il allait faire du sport, et puis il était très doué, il sautait je ne sais plus combien, 3,50 m. Non, 2,10 m, hein, 2,15 m, je crois. C'est génial. Mais il est venu vers son papa, il a dit, papa, j'ai mal au dos. Et son papa lui a demandé, mais pourquoi? Ben voilà, parce que pour que je saute plus haut, on me fait faire de la musculation, on me fait faire des squats. Et puis ça me fait mal au dos. Son papa dit, stop! Écoute ton corps! Voilà une parole de sagesse. Écoute ton corps. Ton corps, il dit la vérité. Cette douleur, ce mal de dos, c'est bien. C'est un signal d'alarme pour dire attention, attention. Et ce qui nous arrive de mal, c'est bien. Mais si on comprend pourquoi on a mal, si on comprend pourquoi il nous arrive une tuile, si on comprend, si on cherche à comprendre, si on ne cherche pas à comprendre, on dit « Ah, il m'arrive que les tuiles, il n'y a pas de bon Dieu. » Eh bien, on restera bête toute notre vie. Dans le règne animal, vous comprenez? Je me moque un peu, mais c'est pour vous secouer, pour vous faire réaliser. Il avait raison, c'est une parole de sagesse. Stop, écoute ton corps. Si ton corps dit non, si ça fait mal, c'est que c'est bien, il faut arrêter, ça veut dire qu'il faut arrêter. Il avertit, ton corps t'avertit qu'il y a un danger. Et alors il a changé de sport. Il n'a pas arrêté de faire du sport, il est prof de sport maintenant. Vous voyez mes frères et sœurs? C'est un peu le conseil du papa Ruiz. Et ben, il aurait continué, et puis aujourd'hui, ben, il aurait mal au dos. Et puis, quand on a mal au dos, après on a mal aux jambes. Puis quand on a mal aux jambes, après... quand un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce que la Bible dit. Alors, rien vous arrive par hasard. Il faut comprendre pourquoi le bien. Il faut comprendre pourquoi le mal. Le mal n'est pas forcément mal, et le bien n'est pas forcément bien. C'est des mots pour expliquer, comme droite et gauche. Hein? Écoutez la lune, c'est-à-dire écoutez votre âme, ce qu'elle vous dit, ses souffrances, comprenez pourquoi. Écoutez la terre, c'est-à-dire écoutez votre corps, écoutez ses souffrances et cherchez à comprendre pourquoi. Et changez ce qui a changé. Il a changé, son père le donné pour le conseil, il a changé. Est-ce que vous allez écouter les conseils de votre Père Céleste et changer ce qui a changé ou est-ce que vous allez continuer à râler en disant « Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu, il n'y aurait pas toutes ces souffrances. » Et puis on continue, et puis on continue, pas seulement à être spectateur du mal qui se passe, mais aussi à faire du mal aux autres. Vous voyez, frères et sœurs, je vous ai prêché ça ce matin, afin que vous puissiez vous élever en toute conscience, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, je te prie que vraiment ces paroles que j'ai données ce matin puissent toucher le cœur de chacun et que chacun ait cette humilité, comme Eric a eu cette humilité de dire « Oui, papa, tu as raison, je vais faire ce que tu dis. » Que chacun ait cette humilité de dire « Oui, Père Céleste, j'ai cette humilité. Tu sais mieux que moi, tu as raison, j'écoute. Et maintenant, je vais te suivre et je vais accepter les choses qui m'arrivent et je vais chercher à les comprendre pour m'élever, pour grandir, pour me dépasser, afin de pouvoir poursuivre dans l'éternité une vie de bonheur et de paix sans cette maudite dualité. » Au nom de Jésus, mon Sauveur. Amen. Amen.